Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Kid.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vous retrouver surtout après ce congrès du Parti québécois, le Conseil national du Parti québécois, pardon, où Paul Saint-Pierre Plamondon a fait un discours qui a fait sourciller. Puis des fois, on se demandait, est-ce qu'on habite dans le même Québec? Là, je vais vous lire des citations du discours. Là, il parle du fédéral. C'est un régime qui ne sait qu'écraser ceux qui refusent de l'assimiler. Une autre perle, le Canada est passé de l'indifférence envers le Québec à une action concertée pour nous affaiblir, pour nous effacer même à tout point de vue. Là, c'est-tu moi où je trouve que c'est un petit peu exagéré? C'est-tu moi où je trouve que genre on est en train de capoter, puis là, le Canada qui veut nous mettre à genoux, nous effacer, nous détester? Comme si Justin Trudeau, il se réveille le matin puis il dit « Comment je peux nuire au Québec? » Puis il se couche le soir puis « Comment je peux nuire au Québec? » Je dis pas que le fédéral, particulièrement des dernières semaines, ne porte pas atteinte à des droits du Québec, notamment à des compétences provinciales. Mais en passant, c'est pas juste envers le Québec. C'est pas juste envers les compétences provinciales du Québec. Toutes les autres provinces. Voyez-vous, vous, Terre-Neuve, le chef de Terre-Neuve, dire « Le fédéral veut nous effacer, c'est un régime qui sait écraser ceux qui refusent de s'assimiler. » À un certain moment, là, faut être crédible lorsqu'il faut apporter des critiques. Et le fédéral mérite des critiques. Des critiques acerbes, des critiques sans nuance. Il faut arrêter de penser qu'on est toujours un peuple humilié, un peuple qu'on cherche à effacer, que le fédéral nous haït tellement que toute sa politique publique est tournée vers faire disparaître le Québec de la map. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Descendons un petit peu sur terre, respirons par le nez, expirons par où on peut, puis allons chercher nos droits, allons chercher, respectons, demandons le respect de nos compétences, puis on habite dans un état de droit. Avec un partage des compétences, avec une constitution, avec des tribunaux. Parce que moi, ce discours alarmiste, là, je n'achète pas. Bienvenue à Cube et bienvenue à votre nouvel épisode.
J'avais vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc Lavoie.
Oui, je vais te dire une chose, là, en commençant. J'ai passé un week-end très relax. J'ai vu mes petits-enfants.
Je te trouvais zen aussi.
Et puis là, je rentre ici, puis je m'apprête à parler de quelque chose d'un peu rigolo, là, pour ceux, le début du procès de Donald Trump. Puis là, tu m'humilies. Tu viens de me rappeler à quel point je suis en état d'humiliation permanente.
Mais oui.
Et ça fait des années que je mets de l'avant une idée fondamentale. Être humilié, c'est une réalité personnelle, n'est-ce pas? C'est dans notre cœur, c'est dans notre âme. Dans ce temps-là, c'est comme
ressenti.
C'est comme le suicide, quand on fait le 1-800 quelque chose pour le suicide. Là t'appelles le 1-800 humiliation. Puis là, tu dis, écoutez, ils sont en train de vouloir nous faire disparaître. Non, non. Ben peut-être, mais oubliez pas qu'on n'a pas le Saint-Pierre Plamondon. Il va empêcher ça, là, lui. Oui, mais là, c'est... il se lève le matin, puis il nous haïsse. Il nous haïsse. Oh non. Où est-ce que... ben, Paul Saint-Pierre Plamondon va vous régler ça. C'est une affaire de rien. Écoute.
Mais...
je suis obligé de faire preuve de retenue, je trouve. Tellement ça ridicule.
Mais Luc,
tellement ridicule, c'est pas possible.
Tout ce qui est exagéré est insignifiant.
Voilà, disait Talleyrand.
On peut très bien reprocher au gouvernement fédéral, soit-il mené par des libéraux ou des conservateurs, des politiques qui ne vont pas dans l'intérêt du consensus québécois.
C'est quoi, c'est le consensus québécois?
Mais, tu sais, des fois, on s'entend sur...
Mais c'est quoi, cette affaire? T'sais? Ah, il n'y a pas consensus. Ah, je me rappelle quand j'ai fait un retour à la télé en 2016, j'étais le premier commentateur qui se disait ouvertement fédéraliste et qui se faisait un plaisir sans cesse renouvelé de me payer la gueule des séparatistes.
Et des souverainistes, des indépendantistes.
Mais pourquoi on dirait pas des séparatistes? Parce qu'ils m'ont dit de ne plus dire ça. À un moment donné, ils ont dit « ça pogne plus ». On a trouvé quelque chose d'autre. On a passé par l'indépendantisme, puis tout à coup, bingo!
Les souverainistes.
Alors là, tout le monde se précipite, elle prend son dictionnaire Robert, son dictionnaire Larousse, le mot n'existe pas. Pas grave! Nous, du Québec, on vient d'inventer un mot à ajouter au dictionnaire de l'Académie française. Nous sommes souverainistes. Non, vous êtes séparatistes. Vous êtes nationalistes séparatistes. Et puis, ben voilà.
Mais est-ce que... Pourquoi ne pas parler de
ces niaiseries-là, c'est incroyable.
Mais moi, j'ai rien contre
la... Tu comptes le nombre de personnes intelligentes, sensées, qui tombent dans ce piège-là, puis qui y vont à fond de train, puis là... Écoute, je te parlais de mes débuts, mon retour à la télévision en 2016. Les premières fois, là, quand j'avais une page Facebook, des gens qui m'écrivaient, mais pourquoi ils nous haïssent tant? Écoute bien, là, j'ai vécu à Toronto, j'ai beaucoup travaillé dans l'Ouest canadien, j'ai vécu à Ottawa. C'est pas vrai, cette affaire-là, tu comprends? Je connais pas un Canadien anglais, j'en connais pas un, qui se lève le matin en haïssant le Québec. Des fois, ils se lèvent le matin en disant, ils sont nommés fatigants. Mais ça, c'est correct, ça, on a le droit d'être fatigants, là, c'est pas...
Non, mais on est... Puis moi, j'ai rien contre... la souveraineté comme idée. T'sais, c'est légitime dans un État de vouloir défendre quelque chose. J'y adhère pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée.
De tu même veux dire séparatiste, là?
Souveraineté.
Pourquoi tu veux pas dire séparatiste? Parce que tu t'es fait intimider par parce que t'es humilié. Alors, une fois humilié, on n'est plus séparatiste, on est humilié. Alors, c'est quoi le synonyme d'humilié? C'est souverainiste.
Mais pourquoi faire la souveraineté ou séparer contre le Canada plutôt que pour le Québec, même quand t'es souverainiste, séparatiste, indépendantiste.
Je comprends même pas ce que tu veux
dire. Pourquoi Paul Saint-Pierre Plamondon ne parle pas de comment il imagine le pays pour donner le goût au monde de rejoindre son idéologie plutôt que de pointer du doigt Ottawa puis Trudeau, puis Trudeau, il veut finir la job à son père, puis il nous haïsse, il nous déteste, il nous humilie. Pourquoi ils vont avec la négative? T'sais, c'est comme...
Ouais. Concept d'humiliation, là. J'en ai personnellement soupé, là, tu sais. Qui est humilié par quoi exactement? Qui m'empêche de me lever le matin puis de parler français puis de travailler en français puis d'aller à l'école en français puis de fréquenter aller voir des pièces, des morceaux de culture, des pièces de théâtre, des spectacles en français? Qui m'empêche de ça? Personne que je sache. Maintenant, oh, M. Trudeau joue dans nos compétences. Oh, c'est vrai que c'est pas beau.
Ben non.
Mais on s'en balance. Le reste du pays
aussi. Il faudrait pas s'en balancer. Mais non, mais tu veux
qu'est-ce qu'on fasse?
Mais non, mais c'est pas un état unitaire, c'est une fédération. Il faut faire fonctionner la fédération.
Ben oui, on va faire fonctionner. Tu vas voir, ça va bien aller. Tu vas voir que ça va bien aller.
Oui, mais toi, ça te dérange pas que Trudeau vienne empiéter les champs de compétences provinciales?
Sur le plan intellectuel, oui. Hein, parce que je suis en faveur d'une fédération équilibrée. Oui. Mais sur le plan émotif, c'est la dernière de mes préoccupations. Qu'est-ce que tu... Y a-tu des choses dans la vie qui sont préoccupantes?
Non, mais donnes-tu du gaz au mouvement souverainiste en faisant ça?
Pas tout. Ça n'a même pas de... D'abord, ceux qui disent « Vous voyez ce qu'il fait! » Ils pensaient la même chose avant que Paul Saint-Pierre Plamondon devienne le leader le plus populaire au Québec. Là. Non. Il y a pas... Je connais personne au Québec à part les séparatistes. T'es gêné de les appeler comme ça. Mais à part les séparatistes, je connais personne qui pense.
Non, mais c'est pas une insulte d'être séparatiste.
Il y a la fin de la saison de hockey. Ça, c'est très important, comprends-tu? Le Festival de Cannes commence bientôt. C'est toujours très intéressant de voir ce qui va en émerger. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en français qui sont fantastiques. Mais on est humilié. Mais non, je suis tanné, je suis pas humilié. Je le dis souvent d'ailleurs. Mesdames et messieurs, regardez-moi. Je ne suis pas humilié.
Tu fais pitié.
Ouais, ça revient au même. Ouais, ça, c'est l'affaire du Québec, le petit Québec. C'est vrai. Quand tu regardes les chiffres, par exemple, de ceux qui sont pour la loi 21 puis la loi 96 et tutti quanti, à quelle place au Québec est-ce que c'est le plus populaire? Dans les régions. La mienne, Rimouski, le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui.
Il n'y a pas d'immigrants là.
Non.
Il n'y a pas de menace anglophone là parce qu'il n'y a pas d'anglais là. Il y a pas, il y a, moi, quand j'ai grandi à Rimouski,
en Gaspésie un
quand
peu,
j'ai vécu, pas. Quand j'ai grandi à Rimouski, pour des raisons géographiques essentiellement, on n'avait aucune radio anglophone. On avait beau tourner, là, il n'y en avait pas. Puis il n'y avait pas de télé anglophone non plus, parce qu'il y avait juste un poste, c'était le poste de la région. Alors quoi? On n'était pas au courant qu'on était humiliés. Mais là, soudainement, réveillons-nous.
On est humiliés.
On est humiliés, voilà.
Luc, la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon de parler du référendum?
Ben, il faut qu'il s'en... Parlons de stratégie, d'accord? Parce que je pense que Pierre-Paul... Voyons, Paul Saint-Pierre Plamondon est un gars intelligent. Sa stratégie, c'est pas compliqué. Lui, il sait très bien que le jour où ses adversaires vont faire porter l'élection uniquement sur la tenue d'un référendum, ce qu'ils vont certainement essayer de faire, lui, il veut qu'on ait déjà évacué ça. Lui, il veut que, une fois qu'il a fait son annonce, là, nous sommes humiliés, puis ils nous haïssent, puis ils nous volent, puis ils font ci, puis ils font ça, puis c'est l'affaire, là. La paranoïa, ça n'a pas de bon sens. La paranoïa qui est d'ailleurs classique du nationalisme. Le nationalisme, c'est toujours ça. Il y a toujours quelqu'un, quelque chose qui ne va pas, il y a quelqu'un d'autre. Qui... Cherchez l'autre. Il y a certainement un autre, parce que nous, on ne se ferait pas ça entre nous, voyons donc. Alors, je pense qu'il veut faire en sorte que sa prise de position pro-référendum avant la fin de la décennie. Déjà, il se donne une marge de manœuvre. Là, avant 10 ans. Ben, pas tout à fait, là, la fin de la décennie.
Non, de décennie 2030, 6 ans.
Alors, c'est...
Ben, 4 ans quand tu vas arriver au pouvoir.
Ouais, quelque chose comme ça.
Premier mandat.
Bon, alors là, ça va faire jaser un peu. Ça met Legault dans une position impossible, parce que Legault, c'était un séparatiste pressé, comme on les appelait. Là. C'était comme
une
suite,
maintenant.
Suite. Ah ouais, là, c'est ça.
Ni séparatiste, ni souverainiste.
Un nini.
C'est un nini. Il est non-binaire.
Nini, manimo. Alors, il va essayer de banaliser, en quelque sorte, son, pas la banaliser l'option, mais faire en sorte que ça devienne une sorte d'automatisme. Ben oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, ah, il y a des choses intéressantes à dire sur le logement. Ah, écoute donc, puis c'est vrai, il y a des choses intéressantes à dire sur des questions comme celle-là.
Mais on ne sait pas ce qu'il pense en santé et en éducation, par contre.
Ben, il se tient loin à l'heure actuelle, là, mais il ne pourra pas continuer de caracoler dans les sondages comme ça éternellement. Ça fait un temps. Et dans ce sens-là, les gens qui disent « Legault est fini », oublient combien le temps est important en politique. C'était François Mitterrand qui, citant Miguel Cervantes, qui disait « Il faut savoir donner du temps au temps. » Alors, gérer le temps, c'est la clé en politique. Saint-Pierre Plamondon, homme intelligent, a compris qu'il y a encore du temps à faire avant d'arriver dans la vraie bataille. Et puis, il va essayer de se positionner comme il le fait présentement. Et les libéraux, de leur côté, ben, ayant décidé d'attendre avant d'avoir un chef, ils n'arrivent pas à grand-chose. Hein.
Ben pour le moment, ils n'ont pas de chef. Ça, on va le savoir l'année prochaine, le chef.
Ben voilà, alors c'est M. Tanguay. Puis, bon, c'est pas une mauvaise personne, là, mais c'est pas non plus ça qui t'amène au pouvoir. Là. Alors, il fait ce qu'il peut. Et puis, pendant ce temps-là, Legault est en train de s'auto-détruire avec une connerie à temps pas l'autre. Puis voilà. On devait parler de Stormy Daniels.
C'est bien mieux.
Mais dans le fond, c'est bien plus le fun de parler de Saint-Pierre Plamondon puis des séparatistes.
Tu les aimes, tes séparatistes.
Ah, j'adore mes séparatistes. J'adore mes séparatistes. Je leur ferais des gros mamours. Mamour, tu vois, ils taillissent pas tant que ça, tu vas voir. Mamour, viens me voir. Ils te mordront pas. Non, tu peux traverser le pont à Ottawa quand tu arrives en Ontario. C'est pas vrai qu'il y en a un qui va te mordre en traversant le pont.
On n'est pas humilié.
Moi, non. Mais je propose quand même le 1-800 humiliation. On va mettre ça en place.
Pour
vous
ceux
appelez
qui sont
là.
Humiliés.
J'ai humilié. C'est pas grave. Le grand jour approche. Oui, mais je peux plus attendre. Il va falloir t'attendre un peu.
Arrête de faire du séparatiste bashing, Luc Lavoie.
J'adore les séparatistes.
T'es toujours un plaisir de parler de fédéralisme et de souverainisme avec toi.
Stormy Daniels, ça t'intéresse?
Demain.
Salut. Bye.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
L'Iran a répliqué comme promis à Israël en envoyant des centaines de drones et de missiles directement de son territoire. Ça a poussé à une escalade. Il y a une tension actuellement au Moyen-Orient encore plus grande qu'il y avait il y a encore quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite? Parce qu'on a tous un peu le souffle coupé, on attend la suite des choses. On en parle avec Rachad Antonius, spécialiste du Moyen-Orient et professeur de sociologie de l'UQAM. Bonjour, Monsieur Antonius.
Bonjour, Yasmine.
On a vu Benjamin Netanyahou ne pas trop s'avancer sur comment Israël compte répondre à cette réponse de l'Iran suite à l'attaque israélienne envers le consulat et l'ambassade iranienne à Damas, en Syrie. Est-ce que vous pensez que les Américains et leur déclaration disant qu'ils n'embarqueraient pas dans une offensive menée par Israël risquent de calmer les ardeurs de Benjamin Netanyahou?
C'est sans doute un facteur important. Heureusement que Israël ne s'est pas trop avancé, parce que si c'était trop avancé, il perdrait la face s'il n'allait pas plus loin. Donc là, ça permet un peu de calmer le jeu. Et heureusement que les Américains ont bien décodé ce que l'Iran disait. Parce que pour l'Iran, c'était clair. Vous savez, l'attaque contre l'ambassade iranienne à Damas, c'était gros. C'était gros. C'était pas juste comme dans les fois précédentes où on assassinait un général. Là, c'était dans l'ambassade. Donc, ça avait une valeur symbolique beaucoup plus grande. C'était un niveau d'agression beaucoup plus élevé. Et c'est pas une personne qui est morte, mais une quinzaine de personnes qui ont été tuées dans cette attaque israélienne. Alors, l'Iran a répliqué en envoyant quelques missiles sur la base d'où les avions israéliens étaient partis pour aller attaquer l'ambassade israélienne. Donc, c'était vraiment très symbolique. Maintenant, Israël dit que moins de 1% des missiles des missiles ou des projectiles, parce qu'il y a eu des missiles, des drones, ont atteint leur cible. L'Iran prétend que ça n'est plus et que la destruction est plus grande. Moi, je doute un peu parce que il y a une tradition dans ces pays de vouloir toujours, je dis ces pays, je parle de par exemple l'Égypte d'où je viens, où quand on attaquait l'ennemi, on avait toujours les nouvelles disaient toujours qu'on a détruit beaucoup bien plus sûr que ce qui se passait en réalité. Donc il y a cet élément là. Donc on ne sait pas exactement, mais pour l'Iran ça a été clair. Ils l'ont dit clairement. Ils ont dit nous avons marqué un point, nous avons envoyé le signal que, au besoin, nous sommes capables de riposter. Et en ce qui nous concerne, ça s'arrête là. C'est ce que l'Iran a dit. Donc, il faut espérer que ça n'aille pas plus loin.
Monsieur Antonius, la question que je vais vous poser, vraiment, vous allez voir, elle est un peu particulière et je vais expliquer pourquoi je la pose. C'est est-ce que l'affection des Iraniens pour les Palestiniens, par exemple, ou la bande de Gaza, est moins importante à leurs yeux que leur haine envers les sunnis, parce qu'ils savaient très bien qu'en attaquant Israël de la sorte, il y a un réalignement non naturel avec ce qui se passe à la bande de Gaza. On a vu les Émirats, l'Arabie Saoudite, la Jordanie contribuer à la défense, entre guillemets, israélienne. Mais ce ne sont pas des pays qui soutiennent Israël naturellement dans le conflit à Gaza.
Oui, ben écoutez, il y a un double réalignement qui s'est fait. D'une part, depuis quelques années, les États-Unis essayent de courtiser ces pays-là pour qu'ils collaborent avec Israël en leur faisant valoir que l'Iran est un danger plus grand pour eux qu'Israël.
Et ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Parce que l'Iran est plus instable.
Oui, mais c'est pas nécessairement un danger. C'est-à-dire, oui, l'Iran est plus fort, mais l'Iran n'a pas intérêt à attaquer ces pays, ces pays-là du Golfe. L'Iran a intérêt à fédérer un peu les forces politiques qui sont marginales pour le moment, qui sont opposés à l'hégémonie américaine. Donc, l'Iran essaye de fédérer, ben, d'une part la Syrie, mais aussi le Hezbollah, les Houthis, le Hamas. Et pour eux, effectivement, la stratégie et la vision politique est plus importante, semble-t-il, en ce moment, que la dimension confessionnelle. Oui. Donc, ils collaborent avec le Hamas, qui sont des sunnites. L'Iran est prêt à aller au-delà de ces divisions-là. Ce sont plutôt les gouvernements des monarchies pétrolières et certains gouvernements arabes qui ne sont pas tout à fait légitimes, qui essayent de gagner en légitimité auprès de leur population en jouant sur cette opposition supposée avec les chiites, en allant puiser dans le registre religieux pour dire les chiites sont nos ennemis. Alors l'Iran pense en termes plus stratégiques et plus, je pense, au-delà de ces divisions. Alors bien sûr, c'est un mouvement islamiste, c'est un gouvernement islamiste qui a ses références religieuses, qui est fondamentaliste à bien des égards, mais je crois que la dimension stratégique me semble être plus importante pour eux en ce moment.
Encore une fois, l'Iran, si elle voulait faire de réels dommages à Israël, n'aurait pas prévenu finalement tout le monde qu'elle s'apprêtait à attaquer, n'aurait pas envoyé nécessairement des missiles qui prennent 6 à 8 heures avant d'arriver. On avait l'impression que c'est plus un message que l'Iran cherchait à envoyer plutôt qu'un réel... une réelle vengeance envers Israël et de l'attaque qu'ils ont connue en Syrie.
Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison de dire ça. Il y a eu plusieurs signes qui disaient que finalement, ils voulaient quelque chose de limité et de symbolique. Pourquoi? Parce que il n'est pas de leur intérêt en ce moment de provoquer un conflit plus large. L'Iran, comme je l'ai dit tantôt, ils ont une pensée stratégique assez sophistiquée. Ils savent évaluer le rapport de force. Ils considèrent qu'en ce moment, le moment n'est pas venu de faire une confrontation à large échelle et probablement qu'ils vont pas la faire. Ils vont attendre que ce soit les États-Unis ou Israël qui provoquent cette confrontation-là. Je pense qu'ils sont dans un autre état d'esprit que celui de la confrontation idéale, totale maintenant. Alors, bien sûr, ils vont appuyer le Hamas, ils vont appuyer le Hezbollah, ils ont une stratégie à long terme d'opposition locale, c'est-à-dire locale, je veux dire, Gaza, Liban, Yémen, à l'hégémonie occidentale, mais ils sont pas prêts à faire une guerre régionale pour un petit bout de temps, je crois.
En même temps, l'action de cette fin de semaine a apporté ombrage à la situation absolument déshumanisante qui sévit actuellement à Gaza pour deux raisons principales. C'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'Iran, on ne parle pas de ce qui se passe à Gaza depuis quelques jours, la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on a vu beaucoup d'alliés d'Israël commencer à monter le temps, à changer d'approche. On a vu même les États-Unis réclamer un cessez-le-feu, ne pas poser leur veto dans une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Canada même a voté une motion pour qu'on arrête d'exporter des armes en Israël tant et aussi longtemps que cette guerre à Gaza ait lieu. Mais là, avec cette attaque iranienne, Israël va se retourner envers ses alliés naturels pour dire « j'ai besoin de financement, j'ai besoin d'armement, je suis sous attaque ».
Tout à fait, mais c'est pour ça qu'Israël avait attaqué l'ambassade aussi. Je veux dire, il faut pas oublier que l'initiative dans cette montée de tension des deux dernières semaines, cette initiative n'est pas venue de l'Iran, elle est venue d'Israël. Donc c'est Israël qui a accentué la tension il y a deux semaines, dans le but exact que vous avez mentionné, pour détourner l'attention du massacre à connotation génocidaire qui est en train d'avoir lieu et rallier un appui. Cependant, les faits sont têtus et les gouvernements occidentaux ne se rendent pas compte de l'énorme gouffre qu'il y a entre les quelques pays qui sont le noyau de l'OTAN et l'immense majorité de ce qu'on appelle les pays du Sud. Même les Émirats et les monarchies pétrolières qui commencent à être contre l'Iran, elles-mêmes sont en rupture avec leur propre population. Parce que il y a un différentiel de sentiments entre les populations de la région arabe et leurs gouvernements qui sont prêts à faire des compromis parce que leurs élites ne veulent pas
Bien sûr.
Trop perdre leur bille avec les Américains. Alors, il y a tout ça qui rentre en jeu.
Une situation d'une complexité inouïe à laquelle on vient de rajouter deux, trois couches de complexité cette fin de semaine. Rachad D'Antonio, spécialiste du Moyen-Orient et professeur de sociologie à l'UQAM, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel Fadel. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Selon le chef Paul-Saint-Pierre Plamondon, le Canada de Justin Trudeau cherche à effacer le Québec. Il a affirmé maintenant avoir la certitude de pouvoir tenir un référendum qui sera probablement celui de la dernière chance. Alors, il y a énormément d'affirmations dans ce discours. Beaucoup de réactions. Stéphane Gobeil, du cabinet du premier ministre du Québec, une certitude, dit le chef du PQ, il est déjà certain de gagner une majorité en 2026. C'est peut-être de l'arrogance ou encore de l'euphorie mal contrôlée. Il y avait une autre réaction aussi de M. Gobeil où il disait l'équivalent que, bon, c'était de jouer avec une paire de deux, finalement. Il y a également Marc Tanguay qui a réagi en disant que Paul-Saint-Pierre Plamondon est de loin le chef du Parti québécois le plus radical. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi, j'ai trouvé que les propos tenus par Paul-Saint-Pierre Plamondon étaient courageuse et périlleuse en même temps. Puis je m'explique. Courageuse parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un chef du Parti québécois qui était très clair sur son plan pour la souveraineté. Mm-hmm. Tu sais, on n'est pas en train de discuter de l'agenda référendaire, quand est-ce qu'on va le tenir, premier mandat, deuxième mandat, quand les conditions vont être assemblées, lorsqu'on aura moussé assez la souveraineté. Non, il met tout ça à la poubelle, tout ce narratif-là à la poubelle, puis il dit « moi ». Je viens avec la souveraineté. Vous n'allez pas pouvoir m'avoir à temps partiel comme premier ministre et vous attendre que je ne fasse pas la souveraineté. Donc, il assume pleinement le fait de tenir un référendum, sachant parfaitement que les Québécois n'en veulent pas. Ça, c'est courageux parce qu'il lie sa personne, sa popularité et le fait que les Québécois le voient comme premier ministre du Québec, mm-hmm, au fait que moi, je viens avec la souveraineté et je vais la faire même si vous ne le voulez pas. Ça risque de lui nuire. Et là, quand je dis périlleux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, moi, je me reconnais pas dans les propos de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Moi, je pense pas que le Canada se réveille le matin pour dire comment je peux écœurer le Québec aujourd'hui, puis se couche le soir en se disant, est-ce que je l'ai bien écœuré aujourd'hui? Tu sais, il y a beaucoup de monde qui se disent, on n'est pas en train de jouer sur une carte de manière un peu trop forte, un peu trop radicale, à faire comme si on habitait avec l'ennemi, puis l'ennemi, c'est le Canada. J'aurais voulu voir un Paul-Saint-Pierre Plamondon d'il y a quelques mois qui disait que la souveraineté, ça ouvrait des portes positives. C'est quoi qu'il imagine comme pays? Il pourrait convaincre en nous donnant une image positive de la souveraineté du Québec pays et donner le goût aux Canadiens d'embarquer là-dedans plutôt que de donner le goût aux Québécois de fuir finalement le fédéral pour essayer de trouver une protection sous le Québec souverain. Je trouve que c'est une stratégie extrêmement cynique qui ne colle pas tout à fait avec ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon nous a habitués jusqu'à maintenant.
Surtout que le dernier appui à la souveraineté, selon un dernier sondage, c'était 36%. On est loin quand même, Yasmine, du 50% et plus que ça prendrait, là.
Ben, moi, j'aimerais la question que je voudrais poser à Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est aujourd'hui, l'appui est à 36 %. Disons que vous êtes élu premier ministre, disons que vous faites une campagne référendaire et que le résultat est un troisième non. Est-ce qu'on abandonne l'idée de la souveraineté du Québec une fois pour toutes? C'est une question qui se pose également. Ou est-ce que, finalement, on va continuer à essayer jusqu'à ce qu'on puisse l'avoir? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de référendum, à chaque fois qu'on embarque dans une campagne référendaire, ça crée une instabilité sociale, économique, ça crée des divisions au sein de la société. Il faut qu'on soit sûr de notre coup, que ça vaille la peine d'aller en référendum, pas juste l'essayer pour l'essayer.
Entente de principe, maintenant à la FIC, les membres qui ont rejeté en moyenne à 61% l'entente de principe qui avait été négociée avec Québec. Il y a même les membres l'Est de l'île de Montréal qui ont voté à 80% contre la proposition. Donc, on est très, très loin d'une entente. On va écouter ensemble la présidente Julie Bouchard.
J'étais déçue de moi. J'étais déçue de moi parce que je me suis dit, cette concession-là a été faite à la toute dernière minute et on croyait qu'avec les gains qu'il y avait en parallèle à ça, eh bien, ça allait compenser un petit peu pour l'inconvénient, la concession, en fait, qu'on avait dû faire.
Comment tu vois la suite, Yasmine?
Ça va être difficile, là. Moi, je ne sais plus ce que cherche la FIC. Là. Je ne sais plus c'est quoi les gains que cherche à faire la FIC parce qu'ils sont à 17 7,4 d'augmentation dans le salaire. Il y a une question qui a été finalement négociée, c'est des déplacements volontaires. Pas obligatoire, là, volontaire. C'est lorsqu'une personne veut le faire. C'est ça le mot volontaire. C'est ça qu'ils veulent rejeter. À un certain moment, on habite dans une réalité et dans un contexte où il y a une pénurie de main-d'œuvre, où nos services craquent de partout, où on a besoin de personnel. Puis, plutôt que de passer dans l'obligation, on cherche le volontariat. Là, j'ai l'impression que les dirigeants de la FIC ont beaucoup trop craqué leurs membres et aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire atterrir l'avion, même avec une entente négociée qui a vraiment de l'allure pour les membres. Ben, c'est visiblement pas assez parce qu'on leur a promis mers et mondes et on n'a pas pu le livrer comme de raison.
Yasmine, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel.
Les propos de Luc Lavoie sur, comme dire, et là je le cite, là, c'est pas des termes que moi j'utilise, les séparatistes, moi j'appellerais ça les souverainistes évidemment, ont pu avoir quelques effets, notamment auprès de notre ami Alexandre Moranville. Où elle est, Alex? T'es-tu fâché? T'es-tu humilié?
Non seulement je suis pas humilié, je me sens pas humilié, mais je respecte quand même Luc Lavoie, ce qu'il vient dire ici, même si je suis absolument pas d'accord. Hein. C'est la beauté de la radio, c'est la beauté de la démocratie.
C'est la beauté de Cube.
Et c'est la beauté de Cube d'être capable, évidemment, d'avoir une pluralité d'opinions. Mais évidemment, je suis tellement pas d'accord avec ce que j'ai entendu.
Pourquoi?
Puis, tu sais, moi, Yasmine...
Mais c'est quoi qui t'a choqué, en fait?
Mais, pas nécessairement tellement de choses. Je trouve que, premièrement, de réduire la cause d'un pays, la cause de la souveraineté, la cause d'un référendum pour le Québec, là, qu'on soit d'accord ou pas, mais de réduire ça à c'est de la peur, c'est de l'ignorantisme, c'est des gens qui se sentent humiliés puis sont fâchés. Puis... Non, il y a un projet, il y a une vision puis il y a un rêve. On n'en a plus des rêves en politique,
mais
je m'excuse.
Mais il parle pas de rêve, Paul Saint-Pierre-Mondon. Dans son discours, là, il a pas parlé du rêve, il a parlé du méchant fédéral.
Moi, je vois un rêve. Puis là, je m'excuse si on prend juste un discours passionné qu'il a fait puis qu'on ignore 100% de ce qu'il a dit depuis des années.
Vrai.
C'est sûr que là, on peut se targuer de ça. Mais il y a un projet puis il y a un rêve. Puis il commence pas avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il commence bien plus tôt que ça. Il existe depuis des décennies. Puis il y a encore des gens qui l'entretiennent. Puis moi, au contraire, je vais dire 30-quelques% de la souveraineté que ça se trouve dans les sondages en ce moment. D'accord, c'est peut-être pas assez haut à ce moment-ci pour un référendum pur et simple. Mais moi, je trouve qu'après des décennies, puis une décennie, là, la dernière dans laquelle on en a presque pu parler de souveraineté, pour moi, que ça soit encore aussi haut au Québec, c'est la preuve de quelque chose. Moi, je trouve ça haut, un 30-quelques% d'appui. Moi, je trouve ça haut pour un projet qui s'est fait autant chier dessus, excuse mes mots, pour lequel on tourne constamment au ridicule. Les Québécois, puis leurs idées de marde, leurs idées de grandeur. Puis moi, je m'excuse, mais il n'y en a plus de rêve en politique.
Mais
moi, ailleurs, j'en vois
un pays quand le deux tiers de la population n'en veut pas, c'est ça le rêve du Québec?
Moi, je pense que oui.
Mais les Québécois ne veulent pas?
Mais je pense que c'est un rêve qui mérite à être partagé et à être ramené.
Je suis d'accord. Moi, je pense que c'est légitime comme cause.
Oui.
Absolument légitime. Puis il faut avoir ces discussions-là.
Mais c'est ce qui me choque, de rire des gens qui ont un projet, des gens qui ont une vision. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette vision-là, mais d'en rire puis de la tourner constamment au ridicule. C'est un peu ce que Luc faisait tout à l'heure. Il tournait en ridicule cette idée-là. C'est là, moi, que ça accroche.
Il a le droit de la trouver ridicule.
Ouais.
Mais quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit que le régime fédéral est un régime qui sait qu'écraser ceux qui refusent de s'assimiler, faut prendre une grande respiration. Il a aussi une responsabilité envers ceux qui l'écoutent de dire quelque chose qui a de l'allure.
Moi, je trouve que c'est encore quelque chose, une phrase, une affirmation qui a de l'allure. Moi, dans le moment où on se trouve, dans lequel on est obligé de demander à Papa Canada, en lui tirant le bas de la jambe, là, en disant « s'il te plaît, peux-tu nous donner la juste part de l'argent que tu as promis en signant l'accord des tiers pays sûrs pour lequel tu ouvres les frontières, tu laisses rentrer? »
C'est pas une raison pour se séparer?
Non, je donne un exemple.
Ouais.
D'avoir constamment cette espèce de rapport de force-là avec un pays qui... Puis regarde, tu vois, je vais aller plus loin parce que je t'écoute attentivement depuis le début, comme je le fais toujours. Tu disais, tu sais, c'est à lui de nous montrer, nous démontrer ce serait quoi ce pays-là, ce serait quoi ce Québec de demain. Moi, je te l'inverser, là, parce que il y en a eu mille des projets puis des exemples de l'an 1 du Québec, de qu'est-ce qu'on ferait, de comment on ferait, ils ont été expliqués. Pourquoi le fardeau de la preuve, il n'est pas au Canada en ce moment?
Parce que le deux tiers des Québécois n'en veulent pas.
Non, mais pourquoi c'est pas au Canada de nous montrer c'est quoi la vision de leur pays dans 10, dans 20, dans 30, dans 50 ans? Parce qu'il n'y en a pas de vision canadienne.
Mais Alex, deux tiers des Québécois n'en veulent pas. Alors, c'est sûr que c'est pas au Canada de le démontrer. Le Canada, visiblement, la majorité du monde, il voit quelque chose.
Et c'est quoi qu'il voit? Qu'est-ce que toi, tu vois? Puis c'est ma question. Qu'est-ce que tu vois? Parce que le Canada, en ce moment, c'est un pays qui n'a pas une culture commune. Qui offre... Moi, qu'est-ce que ça offre au Québec? Qu'est-ce qu'on se fait offrir par le Canada à part un passeport? Sincèrement, c'est une question que je me pose. Puis je dis pas ça pour l'argumentaire.
Moi, j'y vois une richesse que de faire partie d'une grande fédération, alors que des pays sont en train de s'allier. On l'a vu avec l'Union européenne. Sont en train de s'allier parce qu'il y a... C'est plus fort d'être ensemble, tout en gardant sa spécificité, tout en se respectant, tout en demandant à se faire respecter. Moi, je refuse de... diminuer. Le Canada a un gouvernement, soit-il celui de Trudeau ou Poilievre. Le Canada n'est pas un gouvernement, tout comme le Québec n'est pas un seul gouvernement.
Okay.
Tu sais, imagine si tous ceux qui détestaient le gouvernement de Pauline Marois, par exemple, disaient, ben nous, ce petit gouvernement, je me reconnais pas dessus. Dedans, là, Montréal, séparons-nous, c'est pas mon gouvernement. C'est un peu réducteur. C'est pour ça qu'on a une démocratie, puis changeons le gouvernement pour qu'il nous représente.
OK. C'est quoi les options, mettons, fédéral? Parce que moi, en ce moment, je suis désolé, là. C'est la peste ou le choléra. C'est les climato-sceptiques de Pierre Poilievre, des gens qui disent des mensonges sans cesse sur la taxe carbone, ou Justin Trudeau qui dépense comme un, pour vrai, comme un fou, qui a pas de plan pour l'avenir, qui met en avant des initiatives du siècle, de l'immigration débridée. Là, tout d'un coup, soudainement, quand la pression politique commence à échauffer, là, il recule là-dessus, on n'a pas dit ça, on va rectifier. Il y a deux options. C'est plate, mais c'est un bipartisme, le Canada. C'est d'accord, tu peux voter pour le Bloc québécois. D'accord, tu peux voter pour le NPD. Ils vont jamais gagner. Ils peuvent pas gagner.
Ben,
il y a deux partis.
La CAQ a réussi à changer aussi un clivage qui était comme ça au provincial.
Oui, t'as raison. Mais dans l'immédiat, puis dans le moment où on... Dans le paysage dans lequel on se trouve, c'est le Canada est un pays dans lequel il y a un bipartisme. Puis je m'excuse, il y a aucun des deux partis qui œuvre pour le Québec. Moi, je ne vois pas, puis je ne partage rien avec le reste du pays du Canada. Puis on a beau en parler, puis se dire, oui, c'est vrai, c'est une fédération. Oui, c'est vrai, c'est plus fort. Mais à une époque où le principal argumentaire des gens qui étaient contre la souveraineté, c'était, ça va jamais survivre économiquement. Maintenant que c'est quelque chose là, qui a été maintes et maintes fois réexpliqué, réfuté, qu'il y aurait cette possibilité-là, moi, ce qui me déplaît particulièrement, c'est que sur les réseaux sociaux, le premier argumentaire qu'on va voir, parce que, je m'excuse, mais c'est encore un égout à ciel ouvert. Hein. Regardez n'importe quelle là, tribune dans laquelle on dit discours Paul-Saint-Pierre Plamondon, tatata. J'étais allé voir de Gazette, CTV, tu sais, les médias anglophones, mais québécois, là. De la haine, Yasmine, mais de la haine, l'égout à ciel ouvert.
Mais ça, c'est pas expliqué. Ça peut pas être justifié, pas être excusé. Mais Paul-Saint-Pierre Plamondon nous a habitué à un style, puis il n'a pas été à la hauteur de ce style hier.
Moi, tu vois, je suis pas d'accord, puis ce qui va, mais... Moi, je trouve qu'il ose nommer les choses comme elles sont. Le fédéral ne fait que s'ingérer dans les affaires du Québec.
Il veut séparer par haine du fédéral, pas par amour pour le Québec.
Non, parce que le Québec est directement, je m'excuse, avec des politiques comme celle-là, puis avec un désintérêt total là, d'une fédération qui est bâtie, je m'excuse, sur un mensonge. Le fait qu'il y a deux langues officielles au Canada, c'est pas vrai. C'est un mensonge.
Mais
c'est écrit
à nous
sur papier.
De faire que ça soit vrai?
Comment? Comment on peut faire ça?
En faisant en sorte que ça soit une question électorale. C'est nous aussi, la population, qui a notre destin entre nos mains. Si on continue... Justin Trudeau, il s'est pas fait élire tout seul, là. Tu sais qu'au Québec, là, Justin Trudeau a plus de sièges que le Bloc québécois. Il y a quelqu'un qui a dû le faire élire. Il y a quelqu'un qui est parti voter pour Justin Trudeau. Il y a une légitimité électorale dans laquelle il fait avancer ça. C'est nous, comme peuple, qui avons voté pour ce gars-là. Ici même, au Québec. Aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, Justin Trudeau est plus populaire que François Legault. Qu'est-ce qu'on a à répondre là-dessus?
Les gens votent pour Justin Trudeau, puis moi, je vais te le dire, là, dans mon entourage, pas juste pour ça, là. Puis toi, ben, je veux dire, t'es un anglophone, ça se peut que tu votes pour Justin Trudeau aussi, là. Les gens iront pas voter pour le Bloc, on s'entend.
Ils pourraient voter Poilievre.
Ben, c'est ça, le problème. Ils votent pour quoi? Ils votent pour Justin Trudeau, parce que l'option, l'autre côté, c'est Pierre Poilievre, un politicien de carrière qui ne fait que mentir pour avancer ses intérêts dans le reste. C'est, encore une fois, la peste ou le choléra. Il y a deux options. C'est peut-être pour ça que le monde vote pour Justin Trudeau, parce que c'était bien beau faire ton vote puis en faire une question référendaire. Le français, dans le reste du pays, puis tout mon soutien au reste des communautés francophones qui survivent, c'est le terme que je vais leur donner, parce qu'ils survivent dans le reste du Canada, ben c'est pas une question électorale. Puis on pourra jamais en faire un enjeu électoral, Yasmine. Ça nous concerne que nous. ça nous concerne que
ouais,
nous.
Oui, mais c'est parce que les libéraux ne peuvent pas gagner un gouvernement sans le Québec, contrairement aux conservateurs. Les libéraux, le Parti libéral du Canada ne peut pas gagner un gouvernement, majoritaire ou minoritaire, sans le Québec.
T'as raison, mais pour combien de temps, justement?
Ben oui, mais...
Le discours de Pierre Saint-Pierre Plamondon, essentiellement, c'est ça.
On l'a-tu utilisé, cette carte-là, qu'ils peuvent pas jouer pour dire, nous, au Québec, là, on veut être respectés. Nous, là, on pourra pas nous jouer d'un patte puis qu'on va toujours aller voter pour toi parce qu'on n'a pas le choix. Mais on va rester chez nous puis on va pas sortir voter s'il le faut. Mais respecte-nous, Justin Trudeau. On pourrait le dire, ça aussi.
On ne cesse de le dire. On a des partis entiers qui disent ça. Puis qu'est-ce qu'on reçoit au visage à chaque fois? Ah, Québec!
Fait qu'on sait pas.
Hater. Non, mais je m'excuse. Les autres options, on les essaie puis on les utilise maintenant depuis toujours. C'est ce qu'on essaie constamment. Puis à chaque fois que le Québec essaie de se faire respecter, on est des racistes, on est des xénophobes. Je m'excuse de le dire. Puis c'est surtout ça que je voulais amener aujourd'hui. Parce que moi, les critiques que je vois, là, sans cesse, c'est traité de radical, d'extrémiste. Le Parti libéral du Québec est là en train de dire que c'est le chef le plus radical que le Parti québécois ait jamais eu. Hey, calmez-vous le pompon. Sincèrement, là, la radicalisation là, des vraies positions haineuses. Là, parce que c'est ça qui est écrit à chaque fois. Là, le PQ, parti de xénophobe, des gens, ils veulent garder le Québec québécois.
C'est pas ça que ça veut dire radical.
Non, mais je sais, mais dans les... Mettons, tu vas suivre des commentaires, puis tu regardes partout. Là, t'sais. C'est ça, moi, qui ressort en premier comme argument.
Non, mais le Parti québécois, là, c'est particulièrement sous Paul Saint-Pierre Plamondon, n'est pas un parti de raciste, n'est pas un parti de xénophobe. Et Paul Saint-Pierre Plamondon n'est ni raciste ni xénophobe. Ça, c'est une fille qui est fédéraliste, qui le dit puis qui le redit.
Je suis content de l'entendre. Maintenant, t'sais, encore plus fort pour le reste des gens jusque dans d'autres bouts dans l'ouest du pays, s'il vous plaît, parce que ça va c'est toujours ce qui ressort en premier de l'argumentaire puis d'un peu tout le monde. Maintenant qu'il n'y a plus d'argumentaire économique contre la souveraineté, je m'excuse, mais tout ce que je vois ressortir ces réseaux sociaux, c'est cette idée que le Québec veut vraiment faire chasse gardée puis avoir personne d'autre que des francophones chez nous. Non, l'idée du Québec, l'idée d'un pays souverain, ça inclut tout le monde qui s'en vient dans le Québec. Puis j'en ai assez de voir cette cause-là être ridiculisée. J'en ai assez de la voir être comparée constamment à de l'extrémisme. Parce que moi, dans mon métier, puis tu le sais, là, je ne fais que ça, regarder, aller consulter des sites sur lesquels on a des gens qui prêchent la haine presque professionnellement. C'est pas de la haine.
Mais non.
Il y a des idées, mais faut le rappeler.
Oui, mais des idées qui méritent d'être débattues, elles sont pas toutes.
Voilà. Absolument, puis on en débat en ce moment. Mais pour moi, le fait que les arguments contre un pays se résument essentiellement à ça maintenant, ou contre ce projet-là, c'est soit de le tourner au ridicule, soit de dire que c'est xénophobe. Pour moi, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que commence à manquer de jus de s'opposer à cette idée-là. Ah ouais. Puis plus Justin Trudeau va continuer à s'ingérer dans nos champs de compétences.
Faut pas parler. C'est pas parce que le Québec souverain serait économiquement viable qu'il serait économiquement prospère. Ça aussi, c'est une méchante différence.
C'est quelque
on
chose
peut être
à prouver.
Un pays, puis un pays pas très riche. On peut aussi.
Oh, mais on le sait pas.
Ben,
mais
c'est ça.
Mais
on
pour moi, quand
le gamble.
Je préfère prendre ce risque-là sincèrement parce que ce que dit Paul Saint-Pierre Plamondon, puis qu'il a le courage, honnêtement, là, de le mettre de l'avant. Quand il dit que c'est un pays qui ne sait qu'écraser, je m'excuse, mais ça va être ça. C'est ça. On a droit, par exemple, à de l'argent dans toutes sortes de dossiers. Le fédéral, non, vous aurez tel montant, vous vous arrangerez avec. Chaque fois qu'une cause... Pour l'instant, on a besoin du Québec dans le Canada, mais quand on n'en aura plus besoin, parce que ça s'en vient. Pis ça, c'est pas de la folie, je parle pas de grand remplacement, non, le pôle démocratique du Québec ne fait que s'effriter. C'est calculé, c'est véritable. Maintenant, quand on n'aura plus besoin du Québec dans aucune cause, est-ce qu'on va encore pouvoir défendre le français? Est-ce qu'on va encore pouvoir faire ce qu'on n'est déjà pas capable de faire de notre langue, de notre culture commune, qu'il y a au Québec? Il y a une culture commune au Québec. Il n'y a pas de projet de culture au Canada. Je m'excuse, le Canada n'a pas de culture. C'est un pays gris, terne et sans saveur auquel je n'identifie pas et auquel plusieurs personnes ne s'identifient pas.
Mais qu'une grande majorité de Québécois s'identifient, qu'ils l'ont dit deux fois, ils le continuent à le dire dans les intentions de vote?
J'ai pas eu le temps de m'exprimer encore, Yasmine,
non,
sur cette question-là.
Et tu vas peut-être faire partie de ceux sur Twitter qui ont écrit « Moi, j'ai je sais pas quel âge et je n'ai pas encore eu l'exprimation. »
Voilà. Hein, donnez la chance aux coureurs dans cette histoire-là.
Je pourrais en profiter
histoire-là.
Pour aller annuler ton vote.
Ben, continuons à en débattre. Continuons à débattre parce que ça c'est correct.
Non, oui, c'est
ça,
quoi?
Ça, c'est correct de pouvoir
c'est
débattre et en parler.
C'est ce genre de discussion dont on a besoin au Québec.
C'est ça qui fait avancer les choses, pour
Alexandre
de vrai.
Moranville-Ouellette, je sais que t'aimes le Québec, puis tu sais que j'aime le Québec.
Salut.
Bye.
Une main de fer dans un gant de velours.
Yasmine Abdel-Fadel.
Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec dévoile les résultats d'un sondage effectué auprès des membres, de ses membres qui travaillent dans les centres de gestion des appels de la Sûreté du Québec, dont ceux de Sherbrooke et de Trois-Rivières. Et là, on apprend que le taux de roulement du personnel atteint des sommets et l'enquête révèle une surcharge de travail qui découle d'un manque de personnel qui pourrait être la cause de ce taux de roulement. On en parle avec Christian Daigle, président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Bonjour, M. Daigle.
Bonjour, Mme Fabelle.
Qu'est-ce qui se passe avec vos membres qui travaillent dans les centres de gestion des appels de la Sûreté du Québec?
Ben, les gens quittent les emplois parce que quand ils vont dans les centres 911 des grandes villes, ben, ils sont payés jusqu'à 20 000 $ de plus. Donc, les conditions de travail ne sont pas attrayantes. Beaucoup de temps supplémentaire parce qu'il y a une centaine de postes disponibles, ce qui fait que les gens ne veulent pas rester.
Expliquez-nous, il y a des salaires différents d'une ville à l'autre dans les centres d'appel? C'est pas quelque chose qui est uniformisé?
Ben non, pas tout à fait. Puis nous, on représente les gens qui travaillent comme préposés aux télécommunications dans les centres de la Sûreté du Québec. Donc, on relève du gouvernement du Québec. C'est 11 centres d'appel partout au Québec qui desserrent la Sûreté du Québec. Donc, les policiers de la Sûreté du Québec, nous sommes le lien privilégié entre les citoyens qui appellent et les policiers qui vont intervenir sur le terrain. Donc, il y en a à Mascouche, Boucherville, mais j'en ai également à Baie-Comeau, j'ai au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'en ai à Rouyn-Noranda, j'en ai partout au Québec des centres d'appel comme ça. Et les conditions de travail, malheureusement, ne suivent pas le marché de l'emploi présentement.
Comment le gouvernement justifie ces disparités entre, par exemple, les grands centres urbains, j'imagine Montréal, Québec, les villes qui ont leur propre service de police, et j'imagine leur centre de gestion d'appels qui vient avec, versus ceux qui sont rattachés à la Sûreté du Québec? Comment peut-on justifier cet écart de salaire?
Ben ça vient avec les années où est-ce qu'il y a eu au niveau du gouvernement du Québec certains décrets, certaines lois qui ont été ou qui ont amené un gel de salaire. Donc nos salaires ont pris du retard par rapport aux villes qui ont des services similaires et avec la classification, elle n'a pas été revue depuis plusieurs années. Donc au niveau des gens qui sont dans les centres d'appel, ben automatiquement, il s'est créé un écart là, négatif pour nos gens.
Vous parlez également de surcharge de travail qui découle d'une pénurie de main-d'œuvre qui finalement exacerbe la situation. Quand on parle de surcharge de travail, la surcharge de travail, c'est le flot d'appels finalement que les proposés doivent traiter, non?
Ben c'est le manque de personnel au tout début là qu'il faut prendre en charge parce que normalement, on devrait avoir peut-être 430 personnes. Il y en a peut-être 350 présentement. C'est une centaine de personnes qui manquent. Donc, pour couvrir l'ensemble des appels qui peuvent rentrer et l'ensemble du temps également, parce que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 que les appels peuvent entrer. Donc, ça nous prend toujours des gens qui sont disponibles. Alors, à ce moment-là, on doit demander à d'autres personnes de faire du temps supplémentaire obligatoire pour pouvoir justement couvrir ces périodes-là pour éviter qu'il y ait une découverture. Là. Donc, quelqu'un appelle et puis qu'on ne puisse pas répondre à son appel si c'est un appel d'urgence.
Le rattrapage salarial, ça équivaudrait à combien de points de pourcentage d'augmentation actuellement?
Ben, présentement, ce qu'on m'indique à certains endroits, c'est que dans les villes, les salaires peuvent commencer aux alentours peut-être de 45 000, 48 000, 49 000, alors que nous, c'est le taux maximal qui sont payés ces gens-là. Donc, le taux de salaire peut aller jusqu'à 49 000 ou 53 000 au maximum de l'échelle salariale. Alors, pour le rattrapage, il va falloir regarder les choses adéquatement avec l'employeur pour arriver à un certain rattrapage et être correct à travers les écarts là, de salaire qui pourraient être rattrapés.
Christian Daigle, président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode sur Cube.